Vous êtes sur Fred Firm Radio avec Bénédicte Pro et je vous parle de la Croisette pour partager avec vous les grands moments du 68e Festival de Cannes. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Anaïs Demoustier et Jérémy Elkaïm, les acteurs de Marguerite et Julien, le film de Valérie Ronzelli qui est en compétition. Et où l'on voit aussi Samy Frey et Géraldine Chaplin. Marguerite et Julien, librement inspirés de faits réels survenus au XVIIe siècle, relatent une histoire d'amour incestueuse entre frères et sœurs, comme un conte pour enfants. Le film part donc d'une sorte de gageure, car il représente comme pur et irréfutable un interdit impossible à effacer. Un amour qui, quel que soit le siècle et la loi, est et restera toujours un crime, comme le dit d'ailleurs un des personnages dans le film. Et on a même de l'empathie pour les deux criminels.
Le film, il a quand même une particularité, c'est qu'il nous raconte quelque chose qui est difficile à partager. On a des personnages qui doivent s'aimer, mais on ne peut pas partager avec eux cet amour, parce qu'on a en nous, tous autant qu'on est, ce tabou de l'inceste, et ce n'est pas un détail, ce tabou de l'inceste. Et donc le film, il a cet endroit très étrange, très spécial, où à la fois on nous demande d'accompagner ces deux personnages qui s'aiment, mais en même temps, il est difficile de les accompagner complètement, parce qu'on est retenu par l'inceste qu'on a inconsciemment. C'est l'étrangeté de ce film qui est que on doit adhérer à une histoire d'amour qui contient son impossibilité dans une chose qui se partage peu. C'est comme si finalement on disait que en amour, il y a toujours un endroit qui ne se partage pas.
Quelque chose de très pur dans la manière dont l'histoire se passe et dans le rapport de ces personnes. Comment vous avez réussi à jouer ces personnages de manière à ce qu'on ne les juge pas et de manière à vraiment garder une certaine pudeur?
Bah déjà, en les jugeant pas nous-mêmes, la première chose quand on incarne un personnage, c'est d'essayer de le comprendre. Et là, il s'est passé une chose forte pour moi, c'est qu'en plus de la comprendre, je l'ai aimée tout de suite, cette Marguerite. J'ai eu beaucoup d'empathie pour elle, j'ai eu l'impression... Enfin, je les ai aimés tous les deux, en fait. J'ai eu l'impression qu'ils avaient des grandes ambitions pour eux, pour leur vie, des grandes ambitions amoureuses et des grandes attentes, et qu'ils avaient un désir d'absolu, et que ça, c'était beau. Et que ça me donnait envie de les comprendre et de les soutenir. Donc, il y a de la candeur, il y a de la pureté chez Marguerite, il y a presque quelque chose de l'ordre de la sauvagerie. J'ai l'impression qu'elle est très primaire dans sa manière de vivre les choses, d'appréhender les événements, d'appréhender cet amour, cet interdit. Donc, ça a été une manière de jouer les choses en étant de plein pied dans les situations, dans des choses très organiques, très sensorielles, de la peur, du désir empêché, de l'amour, des choses très... des grands sentiments, tout le temps.
Jérémy ?
Quand vous parlez de pudeur, effectivement, je pense qu'il y a une pudeur qui est le désir de politesse et de courtoisie du cinéma de Valérie Donzelli, qui est de ne pas mettre les tripes en avant, de ne pas être dans un naturalisme dans lequel, tout d'un coup, on va systématiquement lâcher des émotions, faire des numéros d'acteurs. Je crois que le film, c'est plus comme une sorte de... livre d'images, de théâtre de marionnettes dans lequel tout d'un coup les personnages sont des figures. Il y a la tentative formelle d'inventer quelque chose, toutes ces narrations qui se succèdent. Ça fait un objet qui est très singulier, probablement un peu déconcertant à certains endroits, mais effectivement, quand vous dites le mot de pudeur, je pense que c'est une des choses sur lesquelles nous nous sommes réunis tous les trois, Anaïs, Valérie et moi. On a une idée de la pudeur, de la tenue, dans une époque où parfois nous avons le sentiment qu'elle en manque un peu, de tenue morale, de tenue au niveau de l'émotion qu'on peut exprimer. Et je crois que c'était difficile de faire un film qui soit lyrique, romanesque, avec des grands sentiments, mais tout en contenant effectivement cette pudeur dont vous parlez. Il ne s'agissait pas de se répandre. Et au fond, la fiction, les artifices sont... comme des garde-fous pour ne pas se laisser aller à des choses impudiques. Donc le film, il est à la fois très baroque, avec des grands sentiments, et en même temps pudique. C'est un paradoxe. Et je pense que c'est les paradoxes qui nous font avancer, et c'est les paradoxes qui font du cinéma de Valérie Donzelli un cinéma qui, moi, m'intéresse.
Qu'est-ce que ça vous a fait de tourner sur les lieux mêmes de l'histoire d'amour de Marguerite et Julien de Ravalet ?
Ça fait de l'effet. C'est pas anodin, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que déjà la région en elle-même, en tout cas pour moi, était un peu inspirante. Il y a des ciels en Normandie qui sont des très beaux ciels. Il y en a dans le film, il y a des plans de ciel qui évoquent, je sais pas, de la mélancolie, des choses fortes. Et puis on se sentait pendant le tournage un petit peu visité en quelque sorte par les personnages qu'on incarnait, Marguerite et Julien. De sentir qu'ils étaient passés par les lieux dans lesquels on tournait, c'était vraiment spécial. Après, ça se décrit pas, c'est un peu étrange, c'est des sensations, hein, mais c'est sûr que c'est pas anodin. de voir leur histoire à travers les murs. L'histoire est très connue dans la région. Tous les gens qui habitent dans cette région-là de France connaissent Marguerite et Julien, en parlent beaucoup. Enfin, c'est vraiment ça fait office d'une de légende dans la région.
Alors justement, dans le film, cette dimension légendaire du récit est soulignée par le fait que l'histoire est imbriquée dans le récit à voix haute de ce conte incestueux à des enfants, le soir à la chandelle. Jérémy, vous avez aussi participé à l'écriture du scénario du film. Pouvez-vous nous parler de ce choix d'en faire un conte pour enfants?
Il y avait le désir de faire un film avec des narrations un peu en poupée russe, avec des narrations à différents niveaux, de se dire que ça se partage, que c'est de la légende, qu'au fond, ces deux personnages, en vivant quelque chose d'extraordinaire au sens propre du terme, qui sort de l'ordinaire, que ça crée de la légende, que ça faisait d'eux des gens fascinants, un peu comme les monstres dans nos sociétés modernes sont fascinants, ceux qui font des horreurs, ça nous fait peur, ça nous horrifie, mais en même temps, ils nous fascinent. Et ça crée de la parole qui s'échange, qui se donne. Il y avait l'idée de montrer cette parole qui s'échange et qui se donne à des enfants. Et de dire, et puis par ailleurs, il y avait l'enjeu plus ludique de la mise en scène et de se dire, si c'est un conte, ça autorise aussi. Ça autorise à peu près tous les égarements formels qui sont ceux du film.
Les anachronismes étaient assez amusants parce que chacun d'eux, en fait, correspond à une envie d'emphase. Le relais flex, enfin, chacun des objets un peu anachroniques renvoie à toute une imagerie. Est-ce que vous êtes amusé à les choisir?
En fait, plutôt que des anachronismes, ce qu'on s'est assez rapidement accordé à dire à propos de la fabrication du film, c'est qu'on ne voulait pas faire une époque, pas objectiver un temps, pas vouloir faire une reconstitution historique. Quand on fait une reconstitution historique, pour donner un exemple comme Marie-Antoinette et qu'on met des converses dans le décor, c'est un anachronisme, les converses. Parce que on dit qu'on restitue objectivement ce qui nous semble avoir été l'époque. On essaye de s'approcher le plus possible de cette vérité, de cette époque. Nous, au fond, le travail qu'on a fait, c'est plutôt de se dire, on va inventer un passé qui serait un passé inconscient, un passé qui se raconte, presque un passé de perception et qui n'est pas un passé avec le désir de dire, ça s'est passé exactement de cette manière-là. Donc, il n'y a plus d'anachronisme puisqu'il n'y a plus d'époque. L'idée, c'était à la fois, encore une fois, formellement de désobéir aux lois habituelles du genre, mais pas comme une posture de désobéir parce que c'était l'occasion d'inventer, c'était l'occasion joyeuse d'essayer des choses de cinéma, d'essayer des mouvements formels, de mettre du lyrisme et du romanesque, beaucoup plus probablement, des gestes de cinéma, de créer des chocs esthétiques. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous espérions pouvoir faire avec le film.
Anaïs, ce rôle semble confirmer une certaine prédilection de votre part pour les rôles d'héroïne archétypale. Il y a ça aussi dans Une nouvelle amie de François Ozon, Bird People de Pascal Ferrand. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à jouer ces personnages qui sont de vrais personnages, qui font partie d'une composition?
En fait, c'est pas jouer qui m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ça, c'est d'un coup être en contact avec un metteur en scène qui a une vision et être une des figures de sa vision. Et alors, que sa vision soit complexe et qu'elle soit que le cinéma soit utilisé pour faire une recherche formelle. Et ça, vraiment, ça m'intéresse. J'ai été un peu lassée d'un cinéma très naturaliste où le metteur en scène est juste quelqu'un qui essaye de reproduire une forme de réalité ou de trucs. Et là, avec Valérie, j'étais vraiment contente. Avec Ozon, c'était pareil. Avec Pascal Ferrand. Parce qu'à chaque fois, je sens bien que c'est le film de quelqu'un.
Et quand on travaille avec Valérie Donzelli, en quoi on sent que c'est son film à elle?
Il y avait vraiment tout le temps de la recherche. Elle a beaucoup d'idées, en fait. Mais des idées qui sont pas qu'elle n'a pas en arrivant au moment où on va tourner la scène. C'est très enivrant et c'est très... Elle compose avec la matière qui est là sur le plateau. Elle est là avec ce qu'il y a de vivant sur le plateau, ce qui l'intéresse au moment où on tourne la scène et on va vers ce qui l'intéresse. Donc ça demande à l'acteur d'être quand même assez souple. Donc si on a un acteur qui a besoin de savoir où on va, combien il y a de plans, comment ça va être tourné et tout, là je pense qu'on est mal avec Valérie parce qu'effectivement ça va de surprise en surprise. On se retrouve avec la caméra en gros plan tout à coup alors qu'en fait on pensait qu'elle serait loin, et d'un coup toute la scène va être en insert sur notre main. Enfin je sais pas, il y a tout le temps des surprises. Il faut être souple, et puis je pense qu'il faut avoir le goût de ça. Moi c'est vraiment un goût que j'ai de me dire tiens, c'est un vivant et allons-y.
Vous parlez tous les deux avec tellement de fougue et de conviction qu'on imagine que vous avez dû être décontenancé par les premières réactions de la presse ici à Cannes qui a esquissé un mouvement un peu inverse.
Non, mais moi je crois que c'est le jeu aussi qu'il faut savoir accepter, qui est un beau jeu. Moi j'aime la parole de la presse, j'aime cette parole libre, j'aime l'idée qu'on fasse des œuvres et qu'elles puissent être regardé par des gens comme vous qui avez chacun des points de vue. Je crois qu'il y a une erreur qu'on commet quand on fabrique des films, et c'est le cas de beaucoup de nos confrères, c'est de ne pas être capable d'auto-réfrigérer notre façon de recevoir ces choses-là. Vous savez, c'est le bûcher des vanités, c'est au fond... qu'est-ce qui serait le plus vrai? Vous croyez que la guerre est déclarée quand tout le monde tout d'un coup dit que c'est vraiment génial, tout est vrai tout le temps? Je suis pas sûr que tout soit vrai tout le temps quand on dit ça. Si vous dites, moi je l'ai pas suivi, mais si vous dites que beaucoup de gens ont dit que celui-ci ça n'allait pas, que ça leur convenait pas, est-ce que c'est vrai? Je crois pas que ça soit complètement vrai non plus. La vérité elle est ailleurs, et moi je crois que ce qui est difficile c'est de s'auto-réfrigérer, surtout quand c'est positif. Que je crois que c'est... Quel poids quand on nous dit « c'est génial, c'est super !» Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est presque encombrant, en fait. On ne sait pas très bien quoi faire de gens qui vous disent « oh là là, quel génie, quel machin !» Je vous assure que pour continuer à vous voir, continuer à travailler, à inventer des choses, à se retrouver sur des plateaux de cinéma... Bah finalement qu'on nous dise dis donc là la copie tu vas me revoir ça, pas de problème, il faut être léger avec la manière que ça a été accueilli.
Merci Jérémy Elkaïm, Anaïs de Moustier.
Merci beaucoup. Merci.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.